L'argent et la transmission, est-ce que ça fait bon ménage? J'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui, de l'argent et de la pédagogie et de la transmission. Est-ce que ça fait bon ménage? Souvent, en tant que coach, thérapeute, formateur, enseignant qui se respecte, qui a un grand cœur, qui a envie de transmettre au plus de personnes possible, il est possible, il est probable que tu sois passé au moins par une période pendant laquelle tu avais du mal à évaluer la valeur de tes programmes et de tes contenus. Il est possible que tu aies eu du mal à dire « Non, mais je ne vais pas faire payer pour ça quand même. Ça, je le fais naturellement, tout le temps. » Parce que si tu es bien aligné dans ce que tu fais, normalement, tu adores le faire et même tu paierais pour le faire. Alors, tu vois un peu l'inverse, tu vois un peu la bascule que tu dois faire d'être payé pour faire ce que tu adores, alors que tu n'as pas l'impression d'aller à la mine quand même, tu vois. Bon. Bonjour, c'est Sarah Johan de la brigade du kiff pédagogique et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'argent, de gratuit, de payant, voilà, de tous ces contenus qu'on développe et qu'on offre tantôt ou qu'on fait payer dans nos programmes d'accompagnement. Et pourquoi je pense à ça? Parce que tout simplement, cette semaine, j'étais avec les membres de ma formation gamification pro au sein de l'université du kiff pédagogique, donc c'est les formateurs, formatrices, qui ont envie d'un contenu béton super génial, qui sort du lot, et qui n'ont pas juste envie de faire une énième formation sur l'hypnose, la technique, marketing et tout ce que tu veux, qui ont envie, ou le commentaire composé, ou tout ce que tu veux, voilà, mais qui ont envie vraiment de changer la vie des gens et que leur contenu soit, je ne vais pas dire parfait parce que ça n'a pas de sens, mais créer des grandes transformations. Voilà. Et en fait, donc j'étais en train de montrer à mes membres deux choses, deux contenus, les 10 clés de la gamification pédagogique efficace et la checklist du fun learning hacking. Comment tu hacks ton cerveau pour apprendre et comment tu hacks le cerveau de tes apprenants, en fait, pour leur permettre de réussir. Et du coup, dans cette série de conseils, il y en a 10 d'un côté, enfin 11 en vrai, et je crois 14 de l'autre, ce sont des conseils que j'ai offerts. Ce sont des contenus que j'ai offerts. Dans notre entreprise, on parle même de lead magnet. Voilà, ce sont alors même pas forcément d'ailleurs, il y en a un, j'ai fait récemment un article dessus sur LinkedIn, et l'autre, je l'ai offert à plusieurs reprises. Je ne sais plus si en ce moment on peut avoir ce cadeau sur mon site, mais voilà, c'était offert à la suite de webinaires ou autre. Et honnêtement, c'est un véritable cadeau. C'est le cadeau de sa race, quoi. C'est vraiment le cadeau que tu veux avoir, où je te donne la substantifique moelle de ce qui fait que j'ai réussi à faire des accompagnements aussi ludiques, aussi... Il y a quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine. En fait, tu es vachement maternante. Tu nous prends en charge, tu nous aides complètement, tu nous dorlotes. Et... Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis comme ça, en fait. Et résultat, donc, c'est pas que ludique, c'est efficace. C'est-à-dire que je t'amène avec le plus de confort possible en supersonique là où tu veux aller et on prend absolument pas le labyrinthe labyrinthique. On passe par-dessus. On hack tout et on arrive de l'autre côté, que ce soit pour toi ou pour tes participants. Et donc, ce cadeau, c'est un vrai cadeau. La preuve, tu vois, je le retraite, je m'en sers pendant mes formations, pendant mes accompagnements avec mes membres. La différence entre les gens qui l'ont reçu gratuitement et les gens qui ont investi de l'argent, du temps, de l'énergie, du focus dans cet accompagnement, de l'espoir, de l'envie, du rêve, tout ce qu'on veut, à ton avis, qui en a tiré le plus? Ce sont les mêmes conseils, c'est la même présentation. À ton avis, qui en a tiré le plus? Est-ce que c'est ceux qui l'ont eu gratuitement, sans rien faire, sans effort à part en cliquant sur un truc? Est-ce que d'ailleurs même ils l'ont cliqué? Est-ce que même ils l'ont lu? Est-ce que même ils s'en sont servis? Est-ce que même ils y ont réfléchi 2 secondes, une fois le cadeau fait? Ou alors, est-ce que c'est l'autre groupe qui a rejoint un de mes accompagnements et qui voit toute la valeur, qui est prêt à m'écouter, à m'entendre et qui est venu prendre tous ces raccourcis pour pouvoir aller plus vite sur le même chemin que moi et sans passer par les erreurs que j'ai faites sur tous les moments aussi où je ne savais pas toutes les bourdes, tous les trucs et qui veut directement les bonnes réponses et les raccourcis. Ouais, t'as trouvé, mais bien sûr. Ce sont les personnes qui ont investi qui en ont tiré le plus. Et du coup, d'où cette question du rapport entre l'argent et nos contenus. Quand tu donnes, Et surtout quand tu appelles ça gratuit, quand tu donnes des contenus gratuits, en général, les gens ne donnent pas, en général, je dis, hein, peut y avoir des exceptions, mais en général, les gens ne donnent pas autant, en tout cas autant de valeur qu'à ce pour quoi ils vont payer. Alors tu vois, c'est dingue parce qu'on est là pour leur transmettre quelque chose, mais il faut savoir que, de même que dans une classe, quand on a un prof sur son estrade et qu'il va balancer son contenu théorique comme s'il versait du lait dans une cruche de lait dans des verres, comme si les participants, leur mémoire, c'était des verres à remplir, ça ne marche pas plus de donner comme ça du contenu gratuit. Alors après, en stratégie marketing, tu ne le fais pas forcément pour que les gens aient une transformation. En vrai, si, moi, je le fais et je choisis exprès mes contenus. Tu vois, là, vraiment, ça m'a pété aux yeux. J'étais même fière de moi en me disant, t'as vu ce que tu as offert, ce que tu donnes. T'as vraiment donné la possibilité à des personnes d'avoir tous tes secrets, quoi. Résumer là, les 10 clés de la gamification pédagogique efficace en 10 clés, enfin une 11e même d'ailleurs, en 11 clés. Je te donne la substantifique moelle de 20 ans de recherche, de travail sur le terrain, d'exercice, d'aller-retour, d'ajustement, etc. Ce sont bien sûr les principes que je suis encore aujourd'hui, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et alors évidemment, bien sûr, il y a une différence entre j'ai les conseils comme ça qui m'arrivent tout cuit dans le bec et je les co-construis, je les comprends, je les façonne, je les ajuste à ma situation, etc. Et c'est pour ça, bien sûr, que ton accompagnement est nécessaire. C'est pour ça que ton coaching, c'est pour ça que la relation, c'est pour ça que le conflit socio-cognitif, c'est-à-dire quand tu as un travail de groupe et que chacun des membres arrive avec une idée préconçue de la chose, qu'il en ait conscience ou pas, et qu'il discute et que vous êtes confronté, vous faites un exercice et vous confrontez les points de vue, alors il y a un conflit entre moi, ce que je pensais, cognitif, voilà, la cognition, les connaissances que j'avais, et la rencontre des avis des autres. Et c'est ça ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif. C'est pour ça qu'on favorise l'apprentissage de groupe. C'est pour ça que ça peut être... alors, il faut que ce soit bien fait, évidemment, mais c'est extrêmement riche de pas juste se contenter d'un accompagnement, d'un coaching individuel. Le groupe peut être une source d'accélération extraordinaire et incroyable. Alors, bien sûr que c'est tout ça qui va enrichir et qui va faire que ces contenus, je peux te garantir, dans un cas, qu'ils t'amènent à vraiment là où tu veux aller, à un changement, une transformation incroyable, hein, naturelle pour penser tes contenus, pour transmettre ton message, etc. Une simplicité, une fluidité, puisque je mets en œuvre tout ce qu'il faut dans l'accompagnement pour, et on prend le temps de le faire, par rapport à juste je te donne les conseils secs. Et c'est vrai que c'est important parce que on a des fois tendance à se dire « mais je leur ai déjà tout dit, je leur ai tout donné » et à répéter. Mais parce que ce n'est pas le répéter qui aide à retenir. Répéter, automatiser, attention, c'est un acte pédagogique qui est très important, mais très souvent qui est très mal fait. On ne répète pas quelque chose qui n'est pas compris. On ne répète pas de la même manière quelque chose qui n'est pas passé de la première fois. Les gens ne sont pas sourds, ils n'ont pas un problème auditif ou ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas fait rencontrer leur monde avec ton concept. C'est ce qu'on appelle aussi la zone proximale de développement. Est-ce que c'est assez proche de ce que je connais, de ce que je sais, de ce que j'envisage, de ce que je crois, pour que je puisse en faire quelque chose ou pas? Et c'est vraiment ça, finalement, notre travail. C'est là que tu te rends compte que la pédagogie, c'est pas de jouer au perroquet, c'est de créer les bonnes conditions pour être écouté, pour être entendu, pour être compris, pour être vu, pour que les éléments et les outils que je transmette puissent être compris et saisis et appropriés. Et du coup, c'est bien ça, tout le travail même de l'accompagnement. Ce n'est pas seulement avoir des connaissances ou des astuces, puisque la preuve, tu vois, je te dis, si on fait une enquête, toutes les personnes qui ont eu entre les mains les contenus dont je te parlais, les 10 clés de la gamification pédagogique efficace et la checklist de Fun Learning Hacking, entre ceux qui l'ont eu dans leurs mains comme ça, un peu sec, sans rien d'autre, même si quand même dans mes accompagnements j'en parle et j'explique avant quand j'offre ces cadeaux-là. Mais ce n'est pas la même chose que de passer des semaines et voire des mois sur quelque chose et de le construire pendant des mois.
Mais la différence entre les deux, elle est là. Elle est vraiment là. Et c'est là qu'est la place de la pédagogie. On se trompe très souvent en pensant que le travail est terminé quand on a fait un beau PDF, un beau contenu, une belle vidéo, et qu'on a mis ça à la disposition des gens. On se trompe en se disant « je vais le répéter parce que ça, ça va les aider ». Non, en fait. Il y a des barrages à l'apprentissage, à la compréhension. Pour arriver jusqu'à cette... Déjà, il faut arriver jusqu'à cette zone proximale de développement, de connaissance, de « je peux télécharger ce que tu me dis ». Et en plus, il y a aussi cette idée de comprendre chacun, puisque je t'en ai déjà parlé, l'élève unique n'existe pas. Donc, si tu as prévu une seule manière de transmettre, ben, ça ne marche pas. Là, tu as tous les obstacles possibles et tu comprends pourquoi ton contenu, qu'il soit gratuit ou qu'il soit payant, il n'est pas passé, quoi. Donc, voilà, je voulais te parler de cette importance parce qu'au départ, peut-être que, comme moi, ton réflexe, c'était de vouloir tout donner, tout offrir, etc. Et tu te rends compte que finalement, ça peut même perdre de la valeur. C'est-à-dire qu'à force de l'offrir gratuitement, les gens ne voient pas de valeur à ça, vont peut-être le télécharger, dire « ah oui, ça, oh, c'est bon, je l'ai déjà, vas-y, amène un autre truc ». Et on tombe dans le consumérisme, tu vois. Genre, vas-y, amène un autre PDF, toujours la nouveauté, toujours le truc. Et là, on bascule dans le marketing. Mais moi, je ne suis pas marketeuse, moi. Je suis pédagogue, je suis enseignante, je suis consultante en pédagogie innovante et en gamification efficace. Et à un moment donné, ce n'est pas la quantité qui compte, quoi. Et d'autant plus en autant de développement du marché de la formation en ligne et de la formation tout au long de la vie, en dehors des institutions même classiques et en parallèle, on peut trouver plein d'informations partout. Donc, il ne faut pas tomber dans la surenchère. Tu vois, c'est un peu comme les journalistes qui veulent tous inviter un tel qui fait de la polémique pour dire « ah ben nous aussi, on l'a eu, quoi ». Enfin, oui, ben, enfin, est-ce que tu es sûr qu'il faut vraiment faire comme tout le monde à un moment tu vois, j'adore ce... Je ne sais pas si tu connais ce conte du joueur de flûte de Hamelin, je crois. Et voilà, parce que là, l'histoire de suivre comme un mouton, là, ça te remet, ça te remet les pendules à l'heure. Je t'invite à aller écouter ce conte qui m'avait vraiment marqué, j'ai trouvé génial, quand j'étais plus jeune et qui est, comme bien sûr, comme tous les contes, plein de sagesse, qui dure tout au long de la vie. Parce que je te signale et je te rappelle que les contes, au départ, ne sont pas faits pour les enfants. Les contes, c'était de la sagesse populaire, c'est la transmission, un autre mode de transmission, bien avant YouTube. Mais c'était pas réservé aux enfants au départ, les contes. Et voilà, donc il y a cette idée, est-ce que vraiment il faut faire comme tout le monde à chaque fois ? Alors après, je suis pas là pour dire il faut absolument pas faire comme tout le monde et faire l'inverse. Non, juste, il faut réfléchir. Est-ce que ça vient servir ma mission, qui est de transmettre mon message ? Mon message, il est simple, il est insupportable de souffrir, de se sentir nul, de se sentir débile, de perdre confiance, de ne plus croire en soi, de croire qu'on n'a pas le droit d'aller là ou là, parce que les méthodes d'apprentissage nous font nous sentir moins que rien, nous semblent nous mettre les connaissances et les diplômes, et etc. Hors de portée. Pour moi, c'est insupportable et c'est soit une forme de snobisme, soit une forme... au mieux, c'est une forme de maladresse. Au pire, c'est une forme de snobisme plus ou moins conscient qui consiste à dire « Ah non, 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 moi je suis un expert, je suis inatteignable et tu n'atteindras jamais mon niveau et je ne vais surtout pas me mettre à ta portée. » Alors bien sûr, si tu écoutes mon podcast, ce n'est pas ton cas puisque tu veux toi aussi lutter contre le crime pédagogique. Ça, c'est vraiment du crime pédagogique, du gâchis pédagogique. Donc voilà, je ne m'appesantis pas sur le sujet. Mais n'empêche qu'il y a vraiment ça. Et quand tu regardes ça, tu vois, plus j'avance, là, cette année, j'accompagne mon fils qui passe le bac et ses copains. Devine, bien sûr, que les copains de mon fils sont aussi 10, ils ont des troubles 10, d'accord. Et évidemment, ils rencontrent la même problématique qui est l'école ne sait pas s'adapter à moi. Parce que je suis peut-être 10, mais je n'ai pas oublié d'être con, en fait. Et résultat, mon cerveau fuse. Et sur certains trucs, il fuse très, très vite et moi, ça va trop lentement. Et sur d'autres, ben, j'ai comme le frein à main, parce que si tout ce que tu fais faire, tu me le fais faire en écrivant et en lisant, ça m'handicape, puisque j'ai ce trouble des apprentissages qui est un handicap invisible, qui est même reconnu par l'OMS, qui est reconnu par l'école qui a créé une loi depuis 2005 pour intégrer les enfants avec des troubles des apprentissages et créer des aménagements, mais pas que, tous les élèves à besoins spécifiques. Et ce qui est fou, c'est que tous, là, alors moi, mon fils, puisque moi, je le travaille au corps sur ça, mais tous, ils ont l'impression, ils ont reçu le même message, c'est de l'impuissance apprise. Ils ont été mis dans des situations impossibles à résoudre et résultat, ils ont pris sur eux en pensant qu'ils étaient débiles, différents, bêtes, mal construits et que c'était leur faute et qu'ils ne pourraient pas faire grand-chose dans la vie, en fait. Voilà. Et que déjà, alors j'avoue, là, on était à une réunion parents-prof par rapport aux épreuves du bac. Mon fils, il est en pro parce qu'il va être pompier. Et résultat, les profs avec plein de bienveillance. Ils sont super, ces profs, ils sont adorables. Hein. On n'est vraiment pas là dans le cas de profs maltraitants, etc. Mais pour les préparer, ils les préparent déjà à ce qu'ils aillent dans la vie active et à ce qu'ils attendent quand même pas trop des études, quoi. Voilà, que s'ils ont leur bac, c'est déjà pas mal, mais sinon, que tous, ils sont pas faits pour faire des études. Alors, on a un problème parce que quand même, je digresse un peu, hein, mais tant pis. En pédagogie, on parle de l'effet Pygmalion, en psychologie aussi, je crois, l'effet Pygmalion. Donc, il est positif ou négatif, cet effet Pygmalion. Ton mentor, ton prof, ton coach, selon ce qu'il croit, il va créer une réalité. S'il croit que tu ne peux pas y arriver, alors il va te mettre dans la posture et dans la position de ne pas y arriver. Et c'est logique, parce que s'il se dit, bon, bah là, enfin, tout le monde ne peut pas y arriver et toi, tel que tu es parti, tu n'y arriveras pas. Ben, est-ce qu'il va trouver des solutions pour qu'il y arrive ? Moi, j'ai jamais eu ça. Quand j'ai découvert l'effet Pygmalion, je me suis dit, ah ouais, je comprends mieux pourquoi tous mes élèves, ils cartonnent, etc. Parce que moi, je suis persuadée intrinsèquement, je crois énormément au principe d'éducabilité, tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut tout apprendre. Ça peut prendre parfois un tout petit peu plus de temps, et encore, quand on se débrouille bien, justement, d'où la gamification. Non, c'est pas le cas. C'est juste un chemin différent. Le chemin qui sera le plus adapté pour toi. Il se trouve qu'après, des chemins d'apprentissage, en vrai, il n'y en a pas 50 000. Tu en as quelques-uns. Un seul, ça ne suffit pas. Hein. L'élève unique, ça ne marche pas. Mais si tu en as sorti entre 3 et 5, c'est max. Hein. Ça suffit. Ça suffit largement. Plus après, si tu apprends à l'autre à comprendre comment il apprend, donc c'est la métacognition, bon bah c'est bon, en fait, on co-construit cette relation pédagogique entre toi qui me signale quand ça marche, qui prend des initiatives, moi qui vais te trouver d'autres solutions, on est sûr de réussir, tu vois, effet Pygmalion positif, quoi. Et du coup, mon sang a tourné, je dis, allez, venez les jeunes, là, j'ai pris les 4 jeunes, je dis, allez, venez, je vais vous faire des séances, vous allez voir si vous n'allez pas avoir votre bac et si on ne va pas vous torcher vos fiches, là, en moins de 2, en 3 samedis, ça va être fait, vous allez voir. Et vous n'allez même pas comprendre la vie, quoi. Mais il y a cette idée que quand on est persuadé en tant qu'enseignant, que formateur, que certains vont réussir et d'autres non, que c'est qu'une question de bonne volonté ou d'intelligence naturelle et dont on aurait eu un certain stock à la naissance ou pas, ben, ça fausse pas mal de choses. Et donc, si je reviens à mon sujet, j'essaie de faire un lien quand même. Si je reviens à mon sujet du jour sur ces contenus gratuits, entre guillemets, ou payants, voilà, en tout cas, la valeur qu'on peut donner. Alors ici, quand on est sur des formations en ligne, on va parler d'argent, il y a l'opposition gratuit ou payant. Quand on est dans l'enseignement, on va parler de valeur, en fait. Voilà. Et c'est vrai que, alors, c'est sûr que j'ai une formation de marketing à la base, et ce que j'ai toujours dit, en fait, je me sers du marketing et de ma formation en marketing pour faire du marketing pédagogique, pour les vendre, les concepts, les trucs lourds, les trucs pénibles à mes élèves. Et j'ai toujours fait ça, et encore aujourd'hui, aux élèves que j'accompagne pour passer des examens. Et en fait, l'idée, elle est là, c'est que si je ne fais pas ressortir la valeur du contenu que je te donne, des clés que je te donne, des raccourcis que je te donne, si tu n'as pas toi, mon élève, conscience de la valeur de ça et de combien ça va te changer la vie, ce que ça va t'amener, quels sont tous les bénéfices que ça va te permettre d'avoir, alors, tu ne vas pas lui donner autant de valeur. Alors, c'était pourtant une baguette magique en puissance, mais elle ne va pas du tout donner sa magie, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'accompagner, c'est très important le contexte dans lequel on propose nos contenus, qu'ils soient offert plutôt que gratuit, ou payant, qu'il soit obligatoire, comme à l'école, ou choisi, il est importantissime de faire ressortir la valeur. Car
j'allais dire, les bécherelles font pas leur propre pub, tu vois. Voilà, les dictionnaires, les données, même si tu les mets, même si tu les gamifies, c'est plus appétissant. Mais c'est pas le lieu, en fait. C'est pas le, il y a pas que ça qui est important. On gamifie pas pour faire joli. En vrai, moi, la gamification pédagogique, elle est juste là parce que je respecte les lois du cerveau. Le cerveau a besoin que ça soit attrayant, motivant, que ça soit rapide, qu'il y ait du sens, de faire des liens entre les choses, alors la mémoire fonctionne. Et il se trouve que quand on fait tout ça, on a exactement les mêmes composantes qu'un jeu. On vit un moment qui est agréable. Et donc, la gamification en soi, en vrai, dans ma pédagogie, elle vient après. C'est même une conséquence. Je ne commence pas par jouer. Je commence par créer un chemin d'apprentissage inratable. Je commence par éliminer tous les obstacles à l'apprentissage. Et surtout, un des plus gros obstacles dont je suis en train de te parler aujourd'hui dans cet épisode, c'est la compréhension de la valeur de ce que je vais transmettre à chacun de mes apprenants. Et c'est mon rôle à moi de leur enseigner combien ça vaut de leur temps, de leur engagement, de leur cerveau, de leur énergie. Et leur cerveau a besoin de ça pour savoir s'il y va ou il n'y va pas, quoi, en gros. Voilà. Et c'est exactement ça à chaque contenu. Tu vois, à chaque contenu, on revend chacun de nos contenus. Je me souviens d'Odile, une formatrice, qui me faisait une remarque en disant « Mais c'est génial parce que, en fait, j'ai remarqué quand tu nous fais l'atelier, tu nous relances, tu nous teases après là-dessus, tu fais le lien, etc. » Moi, je le faisais un peu, mais pas entre chacun de mes contenus, etc. Et je me rends compte que je peux le faire et tout. Et je dis « Mais oui, tu es comme un présentateur télé, juste avant une page de pub qui doit remotiver les spectateurs pour revenir et voire même rester voir la pub pour ne rien rater, puisque c'est là qu'ils gagnent le plus d'argent. Mais il y a cette idée que tu vas tenir en haleine, comme quand tu fais une série, tu finis pas la série, si tu veux que les gens ils soient accros à ta série, regardent toute la série, tu finis pas une série sur un truc plat, bon bah ça y est, on a résolu le problème, il n'y a pas de tension, si tu veux, la prochaine fois tu reviens ou pas, mais... Voilà, enfin, tu ne sauras pas ce qui se passe la prochaine fois, il faut que tu viennes et que tu sois déjà engagé, déjà motivé, déjà investi, déjà là pour en voir toute la valeur. Et tu vois, c'est ça cette inversion entre bah, le monde, pour le coup, pour moi, dans mon expérience de l'éducation nationale et le monde du privé. Dans l'éducation nationale, les choses sont obligatoires, les élèves sont obligés d'être là, les profs sont obligés d'être avec ces collègues-là à transmettre ces contenus-là, même s'ils ont choisi quand même leur matière au départ. Alors, pas de cette manière-là, parce que normalement, on a du choix, mais il y a beaucoup de choses obligatoires. Du coup, tout le monde oublie d'investir et de donner du choix et de donner envie. Ça ne fait pas partie de la culture à la base. Et de l'autre côté, dans le monde du privé, où si personne n'a envie de tes contenus qui sont... un truc parmi un milliard d'autres choses possibles, c'est mort en fait. Voilà, il n'y a personne qui va les lire, qui va s'en servir, que tu les offres ou que tu les fasses payer, peu importe. Et quand tu veux transmettre un message, c'est que tu as une urgence, c'est que tu as une urgence à faire connaître cette réalité. Moi, je veux activement lutter contre le crime pédagogique tout au long de la vie. Il est hors de question que, parce qu'un jour à l'école, on nous a fait croire qu'on ne pouvait pas y arriver, on continue encore en suivant une formation en ligne à se dire « c'est pas pour moi, je ne peux pas changer de métier, je laisse tomber le projet ». Pour moi, c'est hors de question. Il est hors de question qu'une maman qui a des enfants, une maman solo qui a été comme moi et abandonnée par le gentil papa qui ne prend pas du tout en charge financièrement les enfants, qu'elle soit absolument foutue et qu'elle ne puisse pas avoir un meilleur revenu et une meilleure vie et tout en s'occupant bien de ses enfants parce que la formation ne défonce pas tout et lui fait pas gagner un temps phénoménal pour arriver droit au but. Pour moi, c'est hors de question. C'est même pas envisageable. Et ce qui est génial, c'est que plus j'avance, plus je rencontre des gens comme moi qui ont envie de bénéficier de mes nombreuses recherches et expérimentations pour aller évidemment plus loin et droit au but en y mettant leurs pattes. C'est ça que je trouve génial. Qu'à chaque fois, ça, même si c'est mes expériences, mes contenus, ce que j'en ai déduit, mes lectures aussi, parce que je travaille aussi avec la recherche, avec plein de choses très rigoureuses. C'est génial, à chaque fois, ça reste un truc unique et une combinaison unique, quoi. Et du coup, il y a vraiment cette idée qu'il faut donner de la valeur au contenu que tu proposes. Et il faut l'enseigner. Il faut que tu sois pédagogue sur les contenus que tu proposes. Et là, normalement, tu te dis, si tu es à ton compte et tu fais des formations en ligne, tu te dis, mais c'est génial parce que quand je fais ça, en fait, tout mon marketing est déjà fait. Et il est authentique, il est sincère parce que je suis collée à mon expertise, à mon message, à ce que je veux transmettre, à ma mission.
Et là, c'est aligné, c'est clair. Après ça, je peux le balancer sur une page de vente, dans un mail, dans un truc. Tout est fait déjà. Mais oui, c'est ça le marketing fun et pédagogique et authentique. Donc voilà, tout se rejoint en fait. Parce que c'est des êtres humains en fait. Qu'on cherche entre guillemets à leur vendre ou qu'on cherche à leur permettre d'atteindre les résultats qu'on a envie de leur permettre d'atteindre grâce à nos contenus, il faut que ça passe par leur engagement, par leur adhésion. Et donc, que ce contenu il soit offert ou qu'il soit gratuit, qu'il soit obligatoire ou qu'il soit choisi, on a toujours besoin de l'adhésion de leur cerveau, qui, bien sûr, leur cerveau, c'est comme un... Je ne sais plus qui disait ça dans une formation, je crois que c'est David J, je ne me souviens plus, je voudrais pas, j'aimerais rendre à César, mais je ne me souviens plus, mais je crois que c'est lui, je ne suis plus sûre. Le cerveau, c'est comme un Homer Simpson sur son canapé en train de manger un donut, tu vois. Donc lui, s'il peut rien foutre, tu lui proposes de faire un effort, un truc où on comprend rien, où il n'y a pas de raison de se dépasser, parce qu'il faut pas se tromper. Les gens veulent pas forcément toujours la facilité. Ils veulent aussi le kiff, le plaisir. Parfois, ça va être un grand kiff de relever un défi et de se lancer, au contraire, tu vois. Voilà, après, il faut l'encadrer, il faut mettre la sécurité dans tout ça, mais... Voilà, on n'est pas juste sur la facilité en vrai. On est sur le cerveau fonctionne comme ça, point. Il est fait pour nous faire survivre, pas pour nous élever spirituellement à la base. Et donc, il faut quand même un peu lutter contre tout ça à la base, c'est pas naturel. Donc voilà pourquoi je voulais qu'on parle aujourd'hui de ce rapport entre le contexte de ton contenu, la valeur que tu fais ressortir autour de ton contenu. Donc, parfois, c'est sous forme d'argent, hein, quand tu proposes des contenus de rejoindre tes programmes de formation ou tes contenus, etc. Parfois, c'est autre chose. Ça peut être un autre engagement. Mais en tout cas, sache que, pour moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je réfléchis beaucoup à cette notion de cadeau que j'offre. Alors déjà, bien sûr, de la valeur, mais le contexte. Et derrière, j'aime bien demander un engagement. C'est pour ça que, des fois, j'ai des chemins directs et que tu n'as pas tout cuit dans le bec. Parce que pour moi, en fait, c'est comme pisser dans un violon, quoi. Donc, tu sais que tu télécharges le PDF et que tu ne t'en serves pas ou que tu ne le télécharges pas. Pour moi, non, ce n'est pas pareil, en fait. Moi, ça m'enquiquine. Je préfère carrément que tu ne l'aies pas. Tu ne t'engages pas dans cette démarche. Mais tu donnes de la valeur à ce qui m'a pris 20 ans à peaufiner, à rendre facile, à rendre fluide, à rendre de manière très simple, explicable, de manière très simple, transférable. Genre, tu cliques et tu as un téléchargement total de mon cerveau. Bah, donne de la valeur à ça, quoi. Ou alors, si tu ne veux pas en donner, toute la démarche, laisse tomber. Ça veut dire que tu n'es pas dans cette démarche de vouloir transformer des vies, de vouloir faciliter la vie aux gens, parce qu'il y a assez de trucs vraiment galères dans la vie. Donc, quand on peut leur permettre d'accéder à autre chose et que ce n'est pas des promesses marketing, mais c'est vraiment un acte, un accompagnement pédagogique, moi, ça ne me dérange pas que les gens ne prennent pas du tout, quoi. C'est soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans, et c'est OK. Mais au contraire, voyons ensemble, découvrons ensemble quel est ton taux d'engagement et de motivation. On ne va pas faire semblant, tu vois. Moi, justement, d'ailleurs, le contrat que j'ai toujours passé avec mes élèves en classe, ça me faisait rire. Tu sais, certains élèves, cette frange d'élèves qui a tout compris, qui est très, très malin, mais qui utilise son intelligence pour avoir les codes de l'élève, y compris de l'élève un peu débordé, un peu dépassé. « Oh, j'ai essayé, j'ai pas réussi. » En disant « C'est bon comme ça, les profs me foutent la paix. » Si je dis « J'en ai rien à foutre de ton truc, ça me fait chier. » Ça passe pas. Par contre, si je dis « Ah, j'ai essayé, mais j'ai pas eu le temps de finir, c'est trop dur. » voilà. Et comme moi, j'ai une pédagogie qui peut pas te mettre en difficulté puisqu'à la base, on l'a co-construit ensemble et que j'élimine les obstacles, en fait, ça marche pas. Et donc, je dévoile tout de suite ces élèves-là. Je les adore d'ailleurs, ces élèves-là. Et du coup, je suis assez cage avec eux. Je leur dis « T'as une deuxième chance, une deuxième version. » Parce que moi, en fait, je m'en moque complètement que tu le fasses ou pas. Ça, c'est comme tu veux. Moi, je te l'ai façonné, il est prêt, je suis là pour t'aider. Tu veux pas y aller, tu me le dis clairement, tu y vas pas, point, tu sais, hein, mais c'est tout. Et voilà, et du coup, ça marche parce que y a cet engagement. Et qu'on n'est pas dans les faux-semblants, on n'est pas dans les erreurs, on n'est pas dans les blocages, quoi. Voilà, donc pense dans ton rapport à l'argent, dans ton rapport à la valeur de tes contenus, que tu les offres, voilà, quelle que soit la façon dont tu les diffuses, pense surtout à créer de l'engagement et de la valeur pour les personnes qui vont le recevoir. Sinon, elles ne vont pas en tirer toute la substantifique moelle et ça serait une catastrophe, un gâchis pédagogique. C'était Sarah Jobon de la Brigade du Kiff Pédagogique et je te dis à tout bientôt.